I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à l'actualité des sports mécaniques, car aujourd'hui on ne va pas parler uniquement de Formule 1, on évoquera aussi l'endurance avec le retour de Peugeot. On accueillera d'ailleurs le directeur technique de chez Stellantis, Olivier Jansony, après donc ces 6 heures de Monza. Mais évidemment, on va parler essentiellement de Formule 1. On est désormais à la moitié du championnat 2022 après la conclusion du Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Stéphane, t'as rangé ta perruque orange,
c'est
bon?
c'est ça. Écoute.
Non, t'as gardé ta panoplie. Bon, Charles Leclerc, en tout cas, s'est imposé pour ce Grand Prix d'Autriche. Vainqueur, la peur au ventre, le Monégasque qui a vraiment tremblé jusqu'au bout. On reviendra aussi sur les diverses couacs de la FIA, les pénalités qui pleuvent comme à Gravelotte, les amendes aussi, là quelque part on a fait le plein, et puis les limites, les histoires de limites de piste et de fond plat. Alors ça, je ne sais pas si on s'attardera sur ce sujet, mais je pense que ça va animer nos prochaines semaines, Stéphane. Bref. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans les rouages de la FIA. Et puis donc, on parlera avec Olivier Jansony des 6 heures de Monza. Avant cela, juste vous dire que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui avec un constat qui n'est pas bien glorieux après ce Grand Prix d'Autriche. Ce qui s'est passé dans les tribunes, des insultes racistes, sexistes, homophobes envers les pilotes, entre spectateurs aussi. La F1 n'a pas donné la meilleure image d'elle-même à Spielberg. Et dans une certaine mesure, ça rebondit un petit peu sur ce qui s'était passé à Silverstone, lorsque Max Verstappen s'était fait siffler par le public britannique. Alors, pour ce qu'il en est de l'Autriche, le promoteur de la Formule 1 veut ouvrir une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est d'aller identifier les auteurs. On a quand même le sentiment qu'on est sur une tendance un petit peu inquiétante, Stéphane, dérangeante.
Complètement. Jusqu'à présent, les tribunes en Formule 1, c'était une ambiance bon enfant. Et puis là, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus, je veux dire, supporteriste, entre guillemets. Et on est supporter d'un pilote et puis on devient adversaire farouche d'un autre pilote, d'une écurie, d'une autre marque. Et ça mène à des dérives quand même très claires. Je vois là quand même... un changement inquiétant, je dirais, dans l'esprit, dans l'ambiance. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et malheureusement, on tombe dans des phénomènes qui sont assez connus dans d'autres sports. La F1 ne nous avait pas habitués à ça. Et franchement, j'espère que la FIA va pouvoir y mettre bon ordre assez vite. Je pense qu'il faudrait envoyer des signaux clairs très rapidement pour que cela cesse.
Alors, pour tout te dire, ça me paraît inévitable. Pourquoi ? Parce que on essaye de faire grandir l'audience de la Formule 1, de ramener encore plus de monde sur les circuits. Et donc, fatalement, on attire des spectateurs qui n'ont pas les codes. Siffler un pilote lorsqu'il fait une sortie de piste, comme ça a été le cas pour Lewis Hamilton en qualification, sortie de piste plutôt violente, sur laquelle il peut se faire mal, c'est pas dans les codes des gens qui aiment la Formule 1, qui aiment les sports mécaniques, parce que on ne se réjouit pas d'un accident potentiellement grave pour l'intégrité du pilote. Mais quand on n'a pas les codes, finalement, on fait un petit peu comme dans un stade de foot, quoi. On se lâche un petit peu. Il y a des... Alors, est-ce qu'on peut dire des supporters, en tout cas des spectateurs, qui sont aussi motivés par des éléments qui sont un petit peu périphériques à la discipline. Peut-être que certains sont à la recherche d'un héros néerlandais, parce qu'il n'y en a pas énormément dans le sport en ce moment aux Pays-Bas. On va aller un peu plus bas aussi dans les motivations. Est-ce que certains ne sont pas à la recherche d'un héros blanc? on va lâcher le mot, hein, voilà. Est-ce que certains ne sont pas à la recherche d'un héros homme? On met beaucoup en avant l'égalité homme-femme en ce moment, bah, y en a peut-être que ça irrite un petit peu. Est-ce qu'on ne cherche pas un héros hétéro aussi? Allons-y, parlons-en. On trouvera toujours des motivations comme ça qui sont un peu moins avouables. L'alcool aidant, le soleil, l'effet de groupe, ça a donné clairement des débordements.
L'effet de groupe, oui Gilles. Alors, pour recadrer un petit peu les choses, sur les circuits, jusqu'à ces dernières années, on trouvait peu de gens qui allaient de circuit en circuit et qui soutenaient un pilote. Alors, il y avait quand même les tifosi. C'était un petit peu les seuls, je dirais, dans leur catégorie. Et si on va sur un circuit comme Monza, ils sont d'abord fervents supporters de Ferrari. Ça chambre un peu, mais on va pas plus loin. Voilà. Mmh. Et avec les supporters de Verstappen, on est tombé dans autre chose, c'est-à-dire des pilotes qui suivent, des supporters qui suivent leurs pilotes de circuit en circuit. Là, on parle du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring, donc l'écurie aussi à laquelle appartient Verstappen. Et puis, il y aura la Hongrie, il y aura Spa en Belgique, il y aura Zandvoort aussi. Et puis, des supporters aussi à qui on réserve une tribune, comme c'était le cas l'année dernière pour la finale du championnat du monde à Abu Dhabi. Et ce qui fait qu'on est dans autre chose maintenant et qu'on retrouve un petit peu des comportements de supporters qui sont dans un cadre un petit peu national de championnat, on va dire, ordinaire. Et on est sur autre chose parce que d'habitude, en fait, eh bien, quand on paye une place assez chère, quand on va une fois dans l'année sur un circuit, c'est un événement exceptionnel et on a envie d'en profiter, on y va dans un bon esprit. Mmh. Et on profite et on y va pour admirer tous les pilotes. Et ça, c'est ce qui change aussi un petit peu par rapport à cette Orange Army qu'a apporté Verstappen sur tous les circuits de plus en plus et en plus grand nombre depuis 2016.
Alors attention, hein, faut pas jeter l'opprobre non plus sur tous les supporters.
Non, c'est une frange pour l'instant. Voilà.
Il va falloir identifier. On imagine qu'il y a, allez, on va dire, quelques dizaines au maximum de personnes qu'il va falloir absolument neutraliser. Parce que quand je parle de motivation concernant la couleur, le sexe, les choses comme ça, c'est absolument inacceptable. J'ai oublié de terminer ma phrase, mais c'est quand même le plus important. C'est absolument inacceptable, intolérable. Il va falloir les retrouver. En fait, il va falloir sans doute mettre en place un début de protocole, comme on l'a fait pour le football quand il y a eu des hooligans, des propos racistes, homophobes, tout ça. C'est pas des détails, c'est des vrais délits. Il va falloir pourchasser ces gens pour les faire sortir des circuits et qu'on puisse avoir la paix. Parce que on l'a vu, il y a eu une image qui est passée à la télévision pendant le Grand Prix. On voyait un papa. Alors peut-être que je me trompe dans les écuries, mais le papa avait la tunique de la Scuderia et les deux enfants qu'il avait à ses côtés était habillé en Red Bull. Voilà, c'est ça la Formule 1. C'est des gens qui sont côte à côte, qui vont supporter leur pilote, mais qui, avant tout, regardent une discipline, un spectacle. Et il faut sortir tous ces énergumènes là et les punir et qu'on les revoie plus. Point. Voilà.
Alors, par rapport moi à ces comportements, je dirais que de toute façon, il n'y a pas à parler avec eux. Parce qu'il n'y a rien à négocier. Et il faut frapper, même, je dirais, très fort et de façon disproportionnée. Puisque moi, je me souviens des essais hivernaux, des premiers essais, c'était en février à Montmélo en 2008. On sortait d'une année intense, d'une rivalité forte entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren. Et des supporters de Fernando Alonso avaient proféré des menaces racistes contre Lewis Hamilton dans ses tribunes du circuit de Barcelone. Et Max Mosley, qui était alors président de la FIA, avait dit « Écoutez, c'est très simple, si ça se reproduit, on raye le Grand Prix d'Espagne du calendrier de la Formule 1. Point barre. Mmh. » Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut envoyer un gros warning tout de suite, disproportionné, je dirais, en disant « Nous, on est prêts à rayer le Grand Prix d'Autriche du calendrier. C'est ce qu'on va faire si ça recommence. » Donc, moi, je pense qu'il faudrait, au bout d'une enquête sérieuse, détaillée, dire qu'il y a des comportements qui sont inacceptables, mettre l'organisateur local devant ses responsabilités et dire si ça recommence, on ne vient plus. Point barre.
Exactement.
Et mettre aussi d'autres grands prix aussi où ça peut recommencer, où Laurent Jarmier est présente en nombre, sous surveillance, en disant ça sera la même chose. S'il faut se passer du Grand Prix de Belgique parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables là-bas, on le fera. Et pareil pour Zandvoort. Et ces gens-là comprendront très très vite de quoi on parle. Et je pense qu'on pourra stopper ce phénomène. Mais autrement, je pense qu'on risque d'y retourner et de faire le même constat et de pas savoir un petit peu comment prendre le taureau par les cornes, je dirais, à ce niveau-là. Alors après, on sort d'une saison, je faisais le parallèle avec Lewis Hamilton en 2008, on sort d'une saison qui a senti le soufre en permanence entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Il y a eu des épisodes précédents, Silverstone, l'année dernière, qui avait créé vraiment une animosité entre les supporters de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Il y avait eu cet épisode l'année dernière où Lewis Hamilton n'avait peut-être pas exactement pris la mesure de ce qui était arrivé à Max Verstappen, qui l'avait envoyé dans un mur de protection à pleine vitesse au premier tour du Grand Prix. Et puis tout ça, ça s'était emballé. Et ce qui s'est passé l'année dernière, la semaine dernière, au Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est que les supporters de Lewis Hamilton ont hué en fait Max Verstappen. Alors Lewis Hamilton a dit lui-même que ça c'était inacceptable.
Ça c'était important parce que déjà avant les incidents de ce week-end là, Lewis Hamilton avait dit on ne doit pas accepter ça.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans un engrenage et que
il faut casser tout de suite la dynamique.
On était dans un chambrage qui devient malsain maintenant, qui devient mais vraiment répugnant, et se réjouir vraiment d'un accident sérieux d'un pilote, ça n'est pas la Formule 1.
Exactement. Pour conclure sur le sujet, il va falloir aussi que les instances et les dirigeants de chaque équipe soient irréprochables. Et tu reviens là sur ce qui s'est passé l'année dernière. Quand on entend un patron d'équipe dire qu'il n'est pas là pour lécher le cul de son adversaire, ça envoie un signal conscient ou inconscient à la frange un peu moins bien équipée intellectuellement parlant des spectateurs qu'on peut finalement tous permettre. Ben non, on ne peut pas tous permettre, et les patrons d'équipe ont aussi, les pilotes évidemment, mais les patrons d'équipe auront aussi une responsabilité à jouer dans les semaines qui viennent pour faire la chasse à ces énergumènes.
Je vois aussi dans mes notes que à Silverstone l'année dernière, lorsque Lewis Hamilton avait percuté Max Verstappen, il avait sorti en fait immédiatement sur les réseaux sociaux, il y a eu des insultes à l'endroit de Lewis Hamilton, des insultes racistes qui avaient été prises très au sérieux. Mercedes avait produit un communiqué pour soutenir évidemment Lewis Hamilton et faire, je dirais, le constat qu'il faut promouvoir, qu'il y a un travail à faire pour promouvoir les notions universelles, humanistes, tout simplement, avec le soutien de la FIA et de Formula One. Et donc, on retombe là-dedans. C'est difficilement imaginable que ça puisse s'installer durablement. Alors, des pilotes aussi qui ont été sifflés, qui ont été hués, il y en a eu d'autres pour d'autres raisons, un petit peu plus anodine, on va dire. J'ai regardé fin 2013, Sébastien Vettel était sifflé systématiquement sur les podiums parce qu'il dominait trop, tout simplement. Oui, il avait remporté les neuf dernières courses, donc il y avait un phénomène de lassitude et c'était pas plus que ça.
On pouvait pas lui reprocher.
Non, ça a disparu, mais je dirais que faut pas aller. On doit être supporter, on doit encourager, on doit respecter les autres, les adversaires qui font aussi la beauté du sport.
Puis on va conclure sur le sujet parce que sinon on va tourner en rond. Mais d'ailleurs, il y avait eu des sifflets aussi sur ce Grand Prix à Spielberg en 2002, mais c'était pour la... On avait sifflé un pilote allemand, c'était la victoire de Michael Schumacher devant son coéquipier, c'était Barrichello.
Barrichello.
Ouais, où on avait inversé, on avait donné la consigne.
Pour une question de mépris du sport, voilà. Ça c'était autre chose.
Et là, le public avait sifflé. Voilà. Donc, les précédents ne sont pas tout à fait à la même hauteur, et vraiment là on compte sur les autorités de la Formule 1 pour nettoyer vraiment les circuits de
Formule 1, parce que je dirais, Gilles, qu'il y a d'autres Grands Prix qui aimeraient bien accueillir cette fête que doit être la Formule 1. Et s'il y a des Grands Prix qui sont un petit peu dérangeants pour ces raisons-là, on peut s'en passer et ça fera rentrer d'autres Grands Prix qui le souhaitent. Et puis ça fera peut-être rester aussi des Grands Prix historiques qui veulent maintenir l'opposition au calendrier.
On va passer maintenant au sport avec la victoire de Charles Leclerc sur ce Grand Prix d'Autriche. 8 épreuves après sa dernière victoire, c'était en Australie. 3 mois donc d'attente pour Charles Leclerc qui s'est imposé dimanche à Spielberg. 3e succès cette saison pour le Monégasque devant Max Verstappen. Le Néerlandais qui lui s'était imposé samedi devant Leclerc en course sprint. Ce qui signifie qu'il y a quand même encore 38 points de retard pour Leclerc sur Verstappen au classement des pilotes. Même si le Monégasque a profité de l'abandon de Sergio Pérez pour prendre la 2e place du championnat. Un bilan, Stéphane, avant qu'on attaque vraiment l'analyse. C'est simple, Charles Leclerc ce week-end en Autriche a marqué 32 points. Il avait inscrit sur l'ensemble des 5 Grands Prix précédents 34 points. C'est-à-dire qu'en un Grand Prix, en un week-end, puisqu'il y a eu la course sprint, il a inscrit quasiment autant de points que sur les 5 épreuves précédentes. C'est aussi la deuxième victoire consécutive pour Ferrari. Est-ce que la machine, est-ce que la Scuderia est de nouveau en marche? On aimerait bien le croire.
On a rarement vu quand même une équipe mettre une claque technique à une autre, à une rivale, qui est censée être au même niveau. Et puis en plus, une telle disparité du samedi au dimanche, Verstappen, il ouvre la piste, donc il n'a pas de problème, il fait 13 tours, et puis il rentre au stand parce que ses pneus sont usés, sont morts. Et Charles Leclerc fait le double de tours. Et là, se crée un décalage tout de suite. C'était juste incroyable. Et ce qui était fabuleux, c'est que là, Ferrari ne s'est pas senti sous pression, ne s'est jamais senti obligé de répondre ensuite au rentrer au stand de Verstappen sur le deuxième arrêt, spécialement, parce qu'ils avaient tellement d'avantages, ils étaient confiants. Alors, il pouvait se passer n'importe quoi après qui pouvait compromettre cette position.
Qu'est-ce qu'on aurait dit ?
Oui, tout à fait. On en serait peut-être à dire pourquoi sont-ils restés. Tout à fait.
Ils avaient cet avantage. Les ingénieurs du lundi.
Tout à fait. Et ils ont eu le cran, c'est ça aussi qui était fabuleux, c'est que par rapport à ce décalage, eh bien, il a fallu dépasser 3 fois en piste. Leclerc, de façon propre.
J'aimerais bien savoir qui en Formule 1 a dépassé 3 fois Max Verstappen dans le même Grand Prix. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit arrivé déjà.
Et pour la victoire, et on a vu qu'à chaque fois ça a été propre, et spécialement on n'a pas eu cette redite, en fait, ce replay de la fin du Grand Prix 2019, lorsque Verstappen avait poussé en fait Leclerc hors de la piste. Là, il a essayé à l'intérieur, c'était clair, c'était propre. Il a croisé une fois sa trajectoire pour reprendre le dessus. C'était limpide, c'était imparable. Et Binotto a résumé un petit peu ce qu'on pensait tous, c'est-à-dire que vraiment, Charles Leclerc a une stature de champion, c'était vraiment ça. Tu as entendu quand même comme il était, le sang-froid qu'il a eu dans ces derniers moments. Alors, c'était quoi? Ça a duré 10 ou 11 tours, ces problèmes d'accélérateur. Je dirais qu'il y avait de quoi quand même être angoissé.
Trembler, oui.
Et alors, on va dire globalement que cet accélérateur qui reste ouvert à 20 ou 30%, qu'est-ce que ça pose comme problème? Eh bien, ça crée de la consommation. En plus, ça crée une surconsommation. C'est-à-dire qu'il y a un petit risque à la
fin. Et puis, on a du mal à prendre le virage quand même, accessoirement.
On a du mal à prendre le virage. Il faut freiner un petit peu plus fort, donc surchauffe des freins. En tout ça, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis, là-dessus, ça crée aussi des problèmes de boîte de vitesse. Donc, il a tenu la baraque quand même. Il était extrêmement soulagé à l'arrivée. Mais je dirais que c'est une victoire quand même qui fait date. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'était seulement sa 5e. J'ai l'impression qu'il en était à 15 victoires, on l'a vu en tête des courses cette année. D'ailleurs, je crois qu'en statistique, au niveau des tours en tête, il est passé devant Verstappen. Donc, ça veut dire que vraiment, il est dans le match. Et ça l'a vraiment remis dans la course au titre, malgré, tu dis, les 38 points d'écart.
Exactement. Alors, cette victoire de Charles Leclerc, elle n'est quand même pas exempte d'inquiétude du côté de chez Ferrari, parce que vous avez forcément vu les images de l'explosion moteur. Et là, on parle vraiment d'explosion pour Carlos Sainz. On a vu le capot de la Ferrari se soulever au moment de l'explosion. Après, il y a eu cette scène avec l'incendie et Carlos Sainz qui ne pouvait pas descendre parce que la voiture redescendait. Il faudra réfléchir à un système, sans doute, là, pour permettre à un pilote de sortir de sa voiture quoi qu'il arrive dans ces circonstances-là. Mais donc, grosse défaillance pour la voiture de Carlos Sainz, défaillance quand même sur la voiture de Charles Leclerc. Bon, c'est une victoire, mais il va y avoir du travail à la Scuderia.
Oui. Et Mattia Binotto a dit qu'il espérait régler ses problèmes de fiabilité prochainement, mais c'est quand même particulièrement inquiétant. Alors ça veut dire aussi que Sainz va monter tôt ou tard un 4e moteur, donc prendre encore une série de pénalités. Mais le but pour l'instant chez Ferrari, c'est de jouer la montre. Quand il y a un problème de fiabilité comme ça, assez spectaculaire, le motoriste a toujours le même réflexe, c'est d'essayer de pointer en fait une faiblesse en termes de fiabilité et de demander une dérogation à la FIA. Et c'est là-dessus que travaille déjà Ferrari. Binotto l'a dit, il s'est engouffré dans cette possibilité, puisque, vous savez, les, Le développement des moteurs normalement est gelé jusqu'en 2025, jusqu'à la prochaine réglementation qui entrera en vigueur en 2026.
Sauf pour des problèmes de sécurité ou de fiabilité.
Oui, tout à fait.
Donc on va aller chercher ce domaine-là.
Mais on ne va pas changer visiblement le moteur tout de suite chez Carlos Sainz, parce que justement on essaie d'en fabriquer un autre qui va être un petit peu différent et avec un petit peu plus de chevaux dedans, en faisant passer quelques développements aussi qui vont booster la performance. Et Mattia Binotto a dit qu'il va falloir du temps, je cite, pour dessiner, produire, homologuer les nouveaux composants pour améliorer la fiabilité. Il a dit qu'il faudrait plusieurs semaines pour ça et que pour le court terme, ils vont essayer de gérer ces questions de kilométrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont reconstituer un groupe propulseur avec les éléments des
déjà
deux précédents
utilisés,
moteurs déjà utilisés sur probablement les deux dernières courses avant
la
trêve, parce que juste après la trêve, il y aura le Grand Prix de Belgique, qui est un Grand Prix quand même de puissance, qui réclame de la puissance moteur. C'est le 14e Grand Prix de la saison sur 22, donc ça veut dire qu'on rentrera à peu près dans le dernier tiers de la saison, et c'est là où, traditionnellement, les motoristes apportent des moteurs neufs. Donc c'est ce qui devrait bien se mettre, mais je dirais que Sainz va devoir rouler un petit peu à l'économie et finalement, ça va peut-être faire les affaires de Ferrari et ça va peut-être les inciter à nommer Charles Leclerc pilote numéro 1, parce que maintenant, vraiment, après ce Grand Prix, c'est ce que toute l'Italie réclame, c'est avoir une vision claire maintenant là-dessus sur la suite. Parce que je dirais que moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est le comportement de Carlos Sainz dans la course sprint. Moi, j'en ai conclu une chose, c'est que Sainz et Leclerc n'ont pas les mêmes adversaires. L'adversaire de Sainz, c'est Leclerc, ouais. Et l'adversaire de Leclerc,
c'est Verstappen. C'est bien résumé.
Le problème de Sainz, c'est de prendre le pouvoir chez Ferrari, où il n'y a pas encore de pilote numéro 1 clairement nommé. Et là, tu as vu qu'il a passé les 7 ou 8 premiers tours à guerroyer, ouais, avec Leclerc. Et il savait très bien que Leclerc avait pour mission, en fait, de cajoler ses pneus pour pouvoir attaquer Verstappen dans les derniers tours. Et bien, sur les 7 tours où il y a eu des passes d'armes, il a usé ses pneumatiques, et une fois que Charles Leclerc est passé, pour de bon, je dirais, eh bien, il a dû battre en retraite parce que ses pneus étaient déjà à la corde. Il y avait 23 tours à faire en tout, donc ça veut dire qu'il a été plus cigale que fourmi, que son objectif, c'était vraiment battre Leclerc et finir devant lui, rien de plus.
C'est étonnant ce que tu me dis, parce que ça, on ne l'avait pas préparé en préparant ce podcast, mais ça me fait penser à quelque chose, à une pensée que j'ai eue pendant la course, quand Charles Leclerc s'est retrouvé en tête, qu'il avait derrière lui Max Verstappen et que Carlos Sainz était en train de revenir sur l'Espagnol. Donc, c'était évidemment avant la casse moteur de Carlos Sainz. Et je me posais la question, ce qui était le mieux finalement pour Charles Leclerc, est-ce que c'était que Verstappen reste deuxième et Carlos Sainz troisième, ou est-ce que Carlos Sainz, pouvant prendre la deuxième place à Max Verstappen, évidemment, ça permettait à Charles Leclerc de réduire d'autant l'écart au championnat par rapport aux Néerlandais. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne affaire pour Charles Leclerc? Comme quoi, tu vois, ces histoires d'adversaires, elles vont marquer la Scuderia, et il va vraiment falloir intervenir là pour désigner celui qui doit aller chercher, qui doit tenter d'aller chercher la couronne. Et le mieux placé, depuis le début de la saison, c'est Charles Leclerc.
Et tu as vu d'ailleurs, sur la grille de départ, Mattia Binotto est proche de Charles Leclerc. C'est-à-dire que c'est un message aussi.
Il avait pas le doigt en l'air.
Voilà, il sait qu'il est filmé, et c'est un message qu'il envoie à tout le monde en disant, c'est d'abord parce que c'est l'FRA certainement la mieux placée sur la grille, mais qu'il a pris acte en fait de ce qui s'était passé à Silverstone et de l'émoi que ça a causé, et qu'il faut maintenant donner la priorité, je dirais, à Charles Leclerc. Alors maintenant, j'espère qu'il va pouvoir le faire, parce que quelque part, Binotto, il a les pleins pouvoirs chez Ferrari. C'est lui qui donne les grandes lignes techniques de la définition de la voiture. C'est lui qui gère les pilotes et tout ce qui est politique, on va dire, et la conduite de l'écurie, parce qu'il est directeur d'équipe. Et moi, ça me fait penser au fait qu'il manque peut-être quelqu'un pour maintenant prendre une décision forte. Je ne sais pas si Mattia Binotto est capable de le faire, mais je trouve que chez Ferrari, aujourd'hui, il manque quelqu'un de la dimension, de l'envergure de Sergio Marchionne, qui était l'ancien président de Ferrari et qui était un fondu de sport et qui suivait vraiment presque heure par heure, même on va le dire en fait, ce que faisait Binotto chez Ferrari. et qu'il donnait ses directives. Il y a cette histoire qu'avait confié un jour Mattia Binotto, qu'en fait, Sergio Marchionne lui demandait le bombardait de SMS du matin au soir, du petit déjeuner jusqu'à au coucher, sur qu'est-ce qu'on fait pour le moteur, plein de questions auxquelles en fait Binotto devait répondre vraiment dans les 30 secondes. Il avait une exigence extraordinaire de ce point de vue-là. Et souviens-toi, en fait, Sergio Marchionne, c'était le monsieur qui avait dit en 2018, il faut engager Charles Leclerc chez Ferrari en 2019. Malheureusement, Sergio Marchionne est décédé brutalement avant la signature de ce contrat et Ferrari avait quand même respecté cette volonté. Et c'était une très, très bonne décision. Mais aujourd'hui, Sergio Marchionne dirait certainement, maintenant, il faut nommer Leclerc numéro 1. On attend ça maintenant parce que ça simplifierait quand même les choses. Il y a tellement d'écart maintenant au championnat que c'est le moment de le faire.
Ouais, on rappelle hein, les positions au championnat. On a donné l'écart par rapport à Max Verstappen. L'écart désormais entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, il est de 37 points.
Ouais, il est passé de 12 à 37 points. Voilà. Donc là maintenant c'est clair et Sainz n'a plus à bomber le torse. Bon, alors ça me fait penser aussi à cette petite sortie qu'a fait Helmut Marko ce week-end au détour en fait d'une conversation pour le Red Bull Team. Il a expliqué pourquoi est-ce que il n'avait pas pris Sainz chez Red Bull.
Sainz qui était chez Toro Rosso à
l'époque.
Voilà,
c'est ça qu'il n'avait pas promu. Il a dit tout simplement parce qu'il avait une relation toxique avec Max Verstappen. Alors, c'était les bisbilles entre les pères, le père Carlos Sainz et puis Jos Verstappen dans le stand. On se souvient de cette époque-là chez Toro Rosso, c'était assez tendu. Et il avait dit non, j'ai compris que ça ne maturait pas. Voilà. Et j'ai un petit peu peur aussi qu'on retrouve un petit peu ça parce que Sainz, maintenant, on va lui refuser, je pense, ce statut numéro 1. Et que potentiellement, on peut retrouver cette situation-là. Donc, il faut vraiment couper court maintenant à ces polémiques qui pourraient surgir et promouvoir Leclerc au rang qui est le sien.
On verra ça dans les prochaines semaines. Là, il va y avoir un week-end pour faire un petit peu de repos. Et puis après, on prendra la direction du sud de la France pour le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet. On verra si les rôles de chacun sont un peu mieux définis au sein de la Scuderia. On va évoquer maintenant une série de couacs au sein de la FIA. On s'en est donné à cœur joie hein, le week-end dernier avec les pénalités, les amendes qui sont tombées dans tous les sens sur le circuit autrichien. Charles Leclerc, Max Verstappen et Lewis Hamilton sur le podium, hein, tous les trois, ont même écopé d'une amende parce qu'ils ont été rejoints dans le parc fermé par leur physio qui leur apporte toujours de quoi se déshydrater, leur casquette, voilà, des choses comme ça. Alors, évidemment, le parc fermé, ça porte un nom bien précis et pour une raison bien simple, c'est que personne n'a le droit d'y rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on va peser les pilotes après la course pour voir si l'ensemble pilote, équipement et voiture correspond bien au poids minimal en Formule 1. Là, bon, dans l'affolement, les physios sont rentrés, ce qui est évidemment interdit. Ils ont pris 10 000 euros chacun, 10 000 euros, hein, vous avez bien entendu, 10 000 euros d'amende en sursis chacun pour cette erreur, parce que c'est bien une erreur.
Donc, s'ils recommencent, ces trois pilotes devront payer 10 000 euros.
Évidemment, on ne s'inquiète pas trop pour les finances de Lewis Hamilton, de Max Verstappen et de Charles Leclerc. Mais quand même, on s'est dit, bon, ils sont vraiment intransigeants à la FIA. Est-ce qu'ils seraient aussi intransigeants envers eux-mêmes? Parce que là, il y a quand même eu deux, trois trucs qui laissent un peu à désirer.
Alors, j'apporte une petite précision. Gilles,
ça fera toujours plaisir à ceux qui nous suivent.
En fait, non, mais il n'y a pas d'interaction possible entre les pilotes et les membres de l'équipe à l'arrivée. On les voit, il y a des accolades avec les équipes. Et après, il faut rejoindre tout de suite le délégué de la FIA pour la peser, pour toutes ces choses-là, pour ne pas effectivement glisser des objets qui pourraient rajouter du poids ou fausser un petit peu la donne, parce que le poids est très surveillé, c'est aussi réglementaire. Il faut être dans les clous aussi du règlement de ce point de vue-là. Et ça me fait penser.
On n'imagine pas ces trois-là tricher, mais dans la règle, c'est comme ça.
Écoute, Gilles, est-ce que tu te souviens de ce qui se passait chez McLaren avec Mika Hakkinen à la fin des années 90, début des années 2000, quand on avait un petit peu peur de ne pas être au poids? Alors, le mot d'ordre, toujours dans le tour de rentrée, de décélération, c'est roule.
D'aller chercher du pick-up.
Voilà, roule à l'extérieur de la trajectoire pour ramasser des bouts de gomme pour les amalgamer sur les pneus pour augmenter le poids. Voilà, c'est ça. Et puis, en ce qui concernait le poids du pilote aussi, McLaren avait quelque chose, avait une petite habitude, c'est que il y a un mécanicien qui était prêt dans le juste derrière la barrière quand Mika Häkkinen arrivait après sa course. Et il avait un seau d'eau. Alors, je sais pas, ça faisait 10 ou 15 litres, mais c'était assez important. Et il le déversait sur le pilote au prétexte de le rafraîchir. Voilà, tout à fait. Et donc, ça faisait quand même quelques kilos en plus sur la combinaison. Il allait à la pesée, il était trempé, mais il était sûr d'être au poids, tu vois. Donc, on a mis fin un peu à ce genre de choses. Mais on pense encore que les physios ne sont pas là par hasard. Ils viennent tout de suite pour rassurer le pilote, pour savoir si tout va bien, pour leur donner quelques accessoires, ce qui n'est pas urgent, on va dire. Donc, il y a toujours un petit soupçon d'arrangement. Voilà. Donc, ils ont voulu maintenant mettre fin à ça.
Alors, pourquoi on parle de ce sujet ? Parce que ça a déjà commencé un petit peu au début de la semaine qui a précédé le Grand Prix d'Autriche et qui a donc suivi le Grand Prix de Grande-Bretagne avec une déclaration notamment de Fernando Alonso qui annonçait vouloir faire le point sur ce qui s'était passé. Vous savez, cette magnifique bagarre qu'on a eue entre Sergio Pérez, Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Silverstone. Bah, Fernando Alonso, il a dit, moi j'ai regardé les images et j'ai quand même vu un des pilotes, Checo Pérez en l'occurrence, passait à l'extérieur de la piste, rester pied au plancher, y gagner un avantage et ne pas être sanctionné. J'ai l'intention d'évoquer ce sujet lors du briefing des pilotes avant le Grand Prix d'Autriche. Sauf que, à Silverstone, c'est Eduardo Freitas qui était le directeur de course, avec maintenant ça alterne, et en Autriche, c'était Nils Wittich, l'Allemand, qui était là. Et quand Fernando Alonso a commencé à évoquer ce sujet, Sébastien Vettel voulait aussi l'évoquer. Et Nils Wittich a dit, bah, moi, de toute façon, j'étais pas là. Donc, vous verrez ça avec Eduardo. Manifestement, ça s'est un petit peu envenimé. Et Sébastien Vettel a quitté la salle. Il a pris 25 000 euros d'amende. Oui, je répète, 25 000 euros d'amende.
Un bon manqué encore.
Oui, c'est vrai.
La FIA.
On a passé un bon moment. Et donc, ça a commencé à faire monter. Après, il y a eu évidemment pendant le Grand Prix, alors je sais pas là, on perd un peu le fil chronologique, mais pendant les essais, pendant les qualifs, les limites du circuit, parce que c'est une catastrophe en Autriche avec ces dégagements bitumés, les pilotes qui sortent de la piste alors qu'ils sont à 1 mm en dehors de la ligne blanche, hop, on annule le chrono. Ça a aussi alimenté un petit peu l'animosité entre pilotes, équipe et FIA. On s'est même retrouvé avec une Q3. Où on avait 10 pilotes invités, dont un, ben, on ne savait pas si son chrono était valable. Sergio Pérez, encore lui, alors on ne s'acharne pas sur lui, hein, le hasard a fait ça. Mais au début de la Q3, ben, son chrono qui le qualifiait était sous enquête.
Il n'avait pas réalisé en Q2 de chrono pour le qualifier pour la Q3 jusqu'au dernier moment, avec un passage hors limite dans le virage numéro 8, et on apprend qu'il est sous enquête. Mais que la FIA, en fait, on attend un verdict et puis la Q3 commence. Et on comprend en fait que ça sera jugé après, mais tout le monde a bien vu et a bien compris qu'il fallait, en fait, moi je pense qu'il fallait dire temps mort.
Bah oui.
On regarde.
On prend 2-3 minutes pour regarder ce qu'il en est, savoir, parce que forcément, on a empêché un pilote d'aller en Q3.
Il y a un préjudice très clair pour
c'est comme si au football, finalement,
ouais,
exactement, c'est comme si au football, on retirait un but pour hors-jeu, mais après le match. Bah oui, mais si vous êtes mené 1-0, c'est pas tout à fait la même façon de gérer la rencontre. Pierre Gasly, s'il avait été en Q3, sa course aurait peut-être été totalement différente de celle qu'il a vécue. Là, il y a quand même. Il va falloir quand même réagir.
C'était lunaire, parce que voici ce que la FIA a expliqué concernant ce délai.
Ça,
ils ont dit, ceci est la conséquence de nombreuses situations à examiner dans chaque session. Donc on parle de Q1, Q2. La vidéo était claire. Il n'y avait pas de doute sur l'infraction. C'est hallucinant. Donc, il suffisait de regarder la vidéo, de prendre 30 secondes, de reporter. Mais non, la FIA a lassé. Voilà, on n'avait pas le temps. Et puis, c'est prévu à telle heure. Et puis, on fait comme ça. Donc, en fait, on fabrique une erreur. Et puis, après, on essaie de la corriger plusieurs heures plus tard en créant un préjudice. Parce que Pierre Gasly ou un autre pilote, de toute façon, qui passe ensuite en Q3, même de justesse, peut viser la pole position.
La pole position, oui, pardon.
Exactement.
Ouais, ouais. Donc, et ça change complètement la course.
Donc là, c'est un non-sens, je dirais. Et puis, ça veut dire qu'on n'avance pas. par rapport aux années précédentes, là où on nous explique qu'on crée une cellule de visionnage en Suisse, dans les locaux de la FIA, de soutien à la décision pour accélérer la prise de décision des gens qui sont sur place. Bon, bah, je ne sais pas où
on n'a pas vu le bénéfice en tout cas.
À ce niveau-là, et c'est assez lamentable. Et puis, dans tout ça, la FIA, donc, qui est très très forte pour envoyer des amendes à tour de bras, moi j'aimerais qu'une institution aussi,
complètement,
mais j'aimerais qu'une institution au-dessus de la FIA soit aussi capable de délivrer des cartons rouges à la FIA de temps en temps en disant ça, vous ne gérez pas le sport de façon équitable et pourtant c'est votre responsabilité et bah, de leur mettre des amendes ou quelque chose de très clair.
Et alors, ça c'est pour les qualifications. Ensuite, il y a eu la course avec des choses qui sont assez étonnantes aussi. L'accrochage entre George Russell et Sergio Pérez, où là, moi personnellement, alors vous qui avez regardé le Grand Prix chez vous, vous aurez peut-être une analyse différente de la nôtre. On n'a pas la vérité, en fait personne ne l'a, parce que par exemple pour moi c'est un fait de course. On a jugé que c'était George Russell qui était fautif dans cet accrochage. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Stéphane, mais encore une fois, arrêter les pénalités dans tous les sens, parce que aucun des deux, ni Checo Pérez ni George Russell, n'a fait exprès d'accrocher l'autre. On s'en doute bien, surtout dans le premier tour. Il y a eu aussi l'accrochage entre Pierre Gasly et Sébastien Vettel. Là, on sent bien que Pierre Gasly est beaucoup plus en difficulté avec sa voiture qu'il souvire, et que là, pour le coup, il n'a pas pu éviter la voiture de Sébastien Vettel. Mais il y a un manque de cohérence, encore une fois. On en a parlé l'année dernière. J'ai l'impression de refaire un petit peu ce qu'on avait dit l'année dernière. Mais on nous avait dit on va travailler dessus. Bah écoutez, le phénomène est toujours là.
Alors quand tu vois quand même les réactions à l'intérieur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff qui défend George Russell, le pilote lui-même aussi dit je comprends pas, j'ai laissé la place. Mais c'est surtout Andrew Shovlin qui est un technicien, l'ingénieur en chef, qui se permet de faire aussi ce commentaire à la fin, alors que jamais il n'explique, il ne tranche ou il ne donne sa position dans des polémiques comme celle-là. Ça veut vraiment dire que sincèrement, Mercedes juge qu'il n'y avait pas à sanctionner George Russell. Et moi, quand je vois l'accident, je me dis « Pérez est en tort ». Alors, pas au point d'être sanctionné, mais la responsabilité lui incombe plus que à George Russell, qui a dit… En fait, il a fait une remarque très intéressante et très judicieuse. Il a dit « Pérez a fait la même chose qu'il m'a faite avec Bottas lors de la course sprint dans le même virage. Et Bottas a fait tout ce qu'il pouvait. Il est monté en haut de la bordure pour éviter l'accrochage et Pérez est passé. » Il a dit « Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait la même chose. » Mais ce n'est pas passé parce que, Pérez a serré sa trajectoire. Il ne m'a pas laissé à cette place. Il a dit « Moi, j'avais nulle part où aller. »
Avec l'élan.
Et quand on regarde bien, en fait, la séquence, je dirais qu'il l'enferme complètement à l'intérieur. Et il est au milieu de la piste et fait en fait comme si Russell n'existait pas, n'était pas là. Ça pose un problème, vraiment. Il pouvait élargir un petit peu et Russell dit « Il y avait probablement plus de place pour lui à l'extérieur. » C'est tout à fait vrai, mais là, le problème, en fait, qui se pose, tout simplement, c'est du point de vue de la FIA. Il y a quelque chose qui est marqué dans le règlement noir sur blanc, c'est il faut protéger un pilote qui est à l'extérieur lors d'une phase de dépassement, entre parenthèses, pour privilégier le spectacle.
Oui, on va c'est dire. Sûr. Voilà. Ouais. Alors, pour ne pas, pas dissuader de tenter un dépassement.
Et pour moi, en fait, les phases Russell, Pérez et Gasly, Vettel sont complètement différentes. Sur le deuxième cas de figure, c'est Gasly qui est totalement en tort. Parce qu'il perd la voiture, il est incapable de tenir la corde, il est en survitesse, c'est autre chose. Et là, moi, quand je vois ça, je dis Pérez est en tort, il en fait un petit peu trop, et surtout, il pilote un peu à la dure. Bon, effectivement, il s'est cru la veille avec Bottas, point. Mais tout ça, ça remonte à une chose, effectivement, cette protection du pilote qui était à l'extérieur, dont on avait vu l'aberration que ça représente à Monaco, lorsque Hamilton avait attaqué Ocon au virage numéro 1, petit accrochage. Ocon était devant, Hamilton n'était pas arrivé tout à fait au niveau de l'Alpine et pourtant la FIA avait dit bah non, en fait maintenant cette année c'est comme ça et on vous sanctionne donc Esteban Ocon parce que vous étiez dans la mauvaise position et c'était en quelque sorte une gêne ou une entrave et vous êtes responsable. Et je trouve que ça pose un problème parce que Vittorio Liuzzi qui était le commissaire qui était chargé de ça, je trouve que c'est quelqu'un qui juge bien ses phases de course, mais il a dû suivre, je dirais, cette directive. Ouais. Et le problème, c'est que on part pas d'une analyse pour arriver à une conclusion. La conclusion, ça doit être d'abord, on protège le pilote qui est à l'extérieur. Mais débrouillez-vous pour trouver les griefs et les justifications pour arriver à cette conclusion.
Je suis bien d'accord avec toi.
Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Et on aurait pu, à minima, je dirais, conclure à l'incident de course. Là, pour moi, c'était too much. Et alors avec ça, Gilles, tu as 5 secondes de pénalité. Et puis, tu as 2 points accessoirement aussi de super licence qui tombent. Alors Russell, il n'est pas connu dans ce registre-là. Il en a 3 sur les 12 derniers mois. Il ne risque pas d'arriver aux 12 points, je dirais, et d'avoir une suspension d'un Grand Prix. Bon, Gasly, qui a commis quelques erreurs, moi je pense aussi à, je crois que c'était Miami, il a déjà, je crois, ses 6 points sur sa super licence de retirer sur les 12. C'est un petit peu plus logique. Il n'a pas été très, très bien inspiré. On l'a vu aussi le samedi. Mais je trouve là encore que on n'avance pas, tout simplement. Et la FIA ne sait pas sur quel pied
danser. C'est surtout ça. Au-delà des cas dont on vient de parler au cas par cas, c'est dans l'ensemble. Et c'est pour ça que Fernando Alonso disait là, il va falloir qu'on fasse un petit peu le point sur les principes qui régissent les règles en ce moment d'arbitrage. Et puis, quand on revoit Carlos Sainz, premier virage, il est à l'extérieur de Sergio Pérez, mais je ne sais même pas s'il freine Carlos Sainz. Il prend des libertés avec le circuit, il passe 3-4 mètres à l'extérieur, et forcément il ressort devant, parce que plus vous prenez un virage large, plus vous pouvez conserver de vitesse. Et là pareil, pas de sanctions, pas d'enquête, rien du tout.
Tranquille.
On comprend pas, alors qu'il y a des chronos qui ont été annulés en qualification.
Ah bah attends, alors il y a eu 43 infractions en tout, 43. En course, et 4 pilotes sanctionné de 5 secondes. Alors ça va du débutant au quadruple champion du monde. Oui. Donc c'est Guan Yu Zhou, c'est Lando Norris, c'est Pierre Gasly et c'est Sébastien Vettel. Alors ces gens-là disent qu'ils ne peuvent pas bien voir les limites de la piste, peut-être, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ou en tous les cas, quand on les avertit 2 fois, ça n'arrive plus après. Oui. Bon, donc...
Et puis c'est pas ça, c'est qu'à un moment ça pollue. Justement, on nous parle de spectacle. Et bien ça pollue le spectacle. Donc... virez-moi ces dégagements bitumés, remettez-moi un bon vieux bac à gravier. Là, à Monza, on va parler d'endurance. À Monza, il y a des bacs à gravier à la sortie des chicanes. Il n'y a pas eu un problème de pénalité. Les pilotes qui vont trop loin, et je peux vous assurer que dans les prototypes, on ne voit pas les roues. Hein, on est enfermé dans le cockpit, on ne voit pas où sont les roues. Et ben, dès que vous allez un peu trop loin, la roue se fait dans le bac à gravier. Vous perdez du temps. Il n'y a pas de juge à avoir. Il n'y a pas de décision à prendre. Voilà, le pilote. L'autre perd du temps, la voiture perd du temps, risque une crevaison, et comme par hasard, ça arrive beaucoup moins. Alors on parlait la semaine dernière de ces vrais circuits de Formule 1, et remettez des bacs à gravier, comme ça la sanction, il n'y a plus à discuter, savoir si vous êtes un centimètre au-delà de la ligne ou pas. Voilà, hop, bac à gravier, t'es dedans, tu perds du temps, tu te débrouilles.
Alors ce que je comprends pas surtout, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais plus combien est-ce qu'il y a de capteurs sur une Formule 1, 150 ou 200. Je ne comprends pas qu'on ne mette pas dans l'axe de la voiture, sous le plancher, un capteur, tout simplement, qui soit capable de dire
sa position
au millimètre avec un mouchard sur la piste dans ces virages-là. Et on n'a même pas à visionner des vidéos. Si on constate qu'un pilote a fait une infraction et qu'il n'y avait pas une voiture dans sa proximité qui pourrait expliquer qu'il a été poussé ou qu'il a élargi sa trajectoire, on sanctionne tout de suite, on ne se pose pas de questions parce que c'est une pollution. Ça retarde aussi l'examen de cas plus importants, ces cas dont on vient parler, Russell Pérez, Gasly Vettel, ça fait du temps en moins pour bien juger ces faits-là et on perd un temps fou. Alors, moi je trouve que ça fonctionnait bien jusqu'à présent parce que les deux directeurs de course ont dit dès le départ de la saison, ils ont dit la piste c'est l'endroit où on fait la course. Et la piste est délimitée par des lignes blanches à droite et à gauche et on n'en sort pas. Point. Et tout le monde a accepté et tu as vu qu'on n'a pas eu de problème.
Ah bah oui.
Alors c'est simplement sur ce circuit qui est assez permissif qu'on a rencontré des problèmes. Il y en aura peut-être d'autres sur d'autres circuits. On va voir ce qu'il en sera. Mais je dirais que mettez des mouchards aussi si vous ne voulez pas mettre des bacs à gravier. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose à faire urgemment pour traiter ces problèmes-là.
Exactement. On reparlera, je pense, dans un prochain numéro des Fous du Volant aussi des fonds plats mobiles là, qui sont en train d'être scrutés par la FIA parce que là aussi, va y avoir des choses à remettre en place et la FIA là, va avoir un travail difficile à faire. On s'est un peu étalé sur ce sujet, donc on va pas s'étaler davantage, mais... Ouais, là, clairement, il y a du travail à faire du côté de nos amis de la Fédération internationale de l'automobile. Et comme promis, donc cette troisième partie des Fous du Volant consacrée À l'endurance, donc, avec les 6 heures de Monza qui ont eu lieu le week-end dernier en Italie, évidemment, sur le circuit de Monza, évidemment, ils font les choses parfois compliquées en endurance, mais au moins les 6 heures de Monza, ils les font. Ils les font à Monza. C'était la quatrième épreuve du championnat avec la victoire d'Alpine. L'occasion de saluer aussi Nicolas Lapierre, hein, qui vient régulièrement nous rendre visite dans les fous du volant, associé à Mathieu Vaxivière et André Negrao devant les deux Toyota. Une épreuve marquée aussi par le retour de Peugeot en endurance, et on reçoit aujourd'hui Olivier Jansoni, le directeur technique WEC, donc du championnat du monde d'endurance pour le groupe Stellantis. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va faire le bilan de cette première, de ce baptême du feu en quelque sorte. 33e place pour la voiture numéro 94, partagée par Loïc Duval, Gustavo Meneses et James Rossiter. Et ensuite, abandon pour la 94, pilotée par Jean-Éric Vergne, Mikkel Janssen et Paul Di Resta. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce baptême du feu ?
On est venu, puis on a trouvé quelque part ce qu'on était venu chercher. C'est-à-dire qu'on était venu pour apprendre un petit peu l'opération de notre voiture dans le cadre d'un week-end de course, avec toutes les contraintes associées, hein, qui sont quand même très différentes de ce qu'on peut rencontrer en essai. D'un point de vue technique, avec notamment les roulages dans le trafic, dans le pack de voitures, ce que bien évidemment on n'a pas en essai, puis aussi sur le point de vue opérationnel. Donc avec notamment le cadre assez contraint au niveau horaire d'un week-end de course. Voilà. Donc on en retient d'abord sur l'aspect je dirais, positif, c'est qu'on s'est quand même rassuré sur le niveau de performance de la voiture. Je pense qu'on a démontré que par instant la voiture était au niveau des meilleurs. Dans le cadre de la BOP, la balance de performance telle qu'elle est définie actuellement. Donc ça c'est l'aspect positif. Et puis sur le reste, on y a appris qu'on était encore perfectible sur la partie opérationnelle et sur la partie fiabilité de la voiture. On n'avait pas beaucoup d'illusions à ce sujet et ça a confirmé un petit peu ce qu'on pensait. Voilà.
Stéphane.
Justement, sur la partie opérationnelle, qu'est-ce qu'il faut recréer comme habitude, je dirais, parce que Peugeot a une culture dans l'endurance, mais il faut la retrouver aussi. Quels ont été les petits points à améliorer?
Principalement, il faut qu'on arrive, en fait, tout est un peu lié à la partie technique et la partie opérationnelle sont assez liées. Il faut qu'on arrive finalement à avoir une voiture qui soit plus facile à faire rouler dans le sens plus fiable, qui mobilise moins de charge pendant son opération, de façon à pouvoir se dégager du temps et de la concentration pour tout ce qui est vraiment la course, c'est-à-dire en gros la partie opérationnelle de la course, la stratégie, l'optimisation de la performance pendant la course. Aujourd'hui, nous, on a reconstruit une équipe d'endurance à partir de certaines personnes qui étaient expérimentées effectivement dans le domaine, mais qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Et cette espèce de cohésion de groupe et cette habitude de groupe à prendre pour ensemble, et dans le contexte d'un week-end de course, c'est quand même assez différent de ce qu'on a pu faire en essai. On roule en essai depuis maintenant 7 mois, donc c'est pas beaucoup, mais à la fin quand même, on est maintenant assez optimisé pour ce genre d'exercice. Par contre, la course pour nous, c'est tout nouveau.
Alors j'imagine que vous avez énormément de data à éplucher. Pour un directeur technique, c'est sans doute le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez déjà mis le doigt sur les différents problèmes qui ont immobilisé vos deux autos?
À peu près. Après, on va pousser l'analyse quand même pour être sûr de passer à côté de rien. Mais bien souvent, ce sont des problèmes qui ont tendance à s'enchaîner, parce que le premier problème appelant le deuxième et ainsi de suite. Mais donc l'essentiel, c'est de retrouver la cause racine, c'est-à-dire le premier problème de la chaîne qui lui a déclenché les autres. On a les idées déjà assez claires à 90%, on a déjà des correctifs qu'on va pouvoir appliquer assez rapidement, d'autres qui seront un petit peu plus longs à venir. Et puis on va surtout poursuivre l'analyse pour être sûr d'absolument rien manquer, de tirer le maximum des enseignements de ce qu'on a pu voir ce week-end.
Alors l'absence d'aileron arrière a fait jaser, beaucoup jaser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution technique, une option technique qui est validée? Vous avez roulé à Monza. Déjà, est-ce que quelque part pour vous, c'est rassurant, c'est le temple de la vitesse? Et comment est-ce que vous voyez la suite sur des circuits différents?
Disons qu'aujourd'hui, pour être franc, dans l'ensemble des soucis qu'on a rencontrés ce week-end, c'est probablement la chose qui nous a le moins embêtés. Donc on va dire que c'est validé. Oui, après, on n'a pas roulé non plus sur toutes les pistes. On commence à avoir parcouru un certain nombre de pistes entre nos essais, plus cette course à Monza. On n'avait jamais roulé à Monza, c'était une piste nouvelle pour nous, qui vient se rajouter à l'ensemble des pistes qu'on a déjà pu utiliser depuis le début des roulages de la voiture au mois de décembre. On ne peut pas dire qu'on a encore absolument tout cerné, mais on commence à avoir une bonne base de données. Et on n'a pas d'alerte particulière sur cette configuration aérodynamique. Hein.
Est-ce que vous arrivez, du coup, là maintenant, c'était la première fois que vous étiez en confrontation, est-ce que vous arrivez à voir exactement, finalement, où la voiture performe et où il va falloir essayer de la faire progresser?
Bon, disons qu'on a une vue. Alors oui, j'irai dans le contexte de ce week-end. C'est-à-dire que le problème de ces catégories hypercar, c'est donc qu'il y a une balance de performance. Donc on a des voitures qui sont réglées en performance de façon générale par le règlement, quelque part, avec une balance qui évolue au fil de la saison. Dans le cas de cette balance de performance, et en faisant l'hypothèse que tout le monde roulait au maximum de son potentiel, oui, on arrive à voir où on est effectivement un petit peu mieux et un petit peu moins bien que la concurrence. Voilà. Et donc finalement de dégager des pistes d'amélioration qui sont forcément entre guillemets assez évidente pour nous, parce que effectivement au début, le potentiel d'amélioration est important. Voilà. Donc on en est encore à ce stade-là.
Il y a déjà une symbiose qui est installée au sein de vos deux équipages. Vous parliez des impératifs d'exploitation, d'opérationnel, changer les setups, définir les stratégies. Est-ce que vous sentez que tout ça déjà se construit aussi au sein des équipages où il faut se comprendre, demander la même chose de la part de la voiture et savoir faire aussi des concessions par rapport aux coéquipiers?
Oui, alors on a une symbiose déjà entre nos six pilotes et puis nos six pilotes et l'équipe technique parce que on les connaît, on a roulé avec eux, on a alterné les pilotes depuis 7 mois, ils travaillent eux ensemble aussi tous les six depuis 7 mois et puis eux avec nous. Et puis dans les équipages, effectivement, c'est intéressant parce qu'on arrive à la fois pour l'instant à avoir des équipages qui sont quand même en symbiose tous les deux, sans avoir pour autant d'opposition et en ayant vraiment une mise en commun des données et des jets de ce qu'on apprend. À ce que les deux voitures nous servent réellement toutes les deux à progresser dans l'ensemble. Voilà, c'était un peu l'objectif et pour l'instant on le tient.
Là, c'était la grosse échéance, hein, l'entrée en lice de cette Peugeot 9X8. Vous irez à Fuji pour la prochaine épreuve. Vous faites
Oui, bien sûr,
la suite et la fin du championnat?
on va terminer le championnat donc avec deux voitures à Fuji, deux voitures à Bahreïn ensuite. C'est ce qui était prévu. Maintenant, la question pour nous, c'est d'arriver à régler nos problèmes au fur et à mesure, et puis on en rencontrera probablement d'autres à Fuji. Mais on est vraiment dans une logique en fait de progrès et de prise d'expérience pour préparer la saison 2023. C'était le sens pour nous de terminer ces trois courses de 2022. Et donc, on essaye de progresser. On a déjà des idées pour progresser pour Fuji. Et je suis certain qu'à Fuji, on trouvera d'autres idées pour Bahreïn.
Ça s'arrête jamais.
Ça s'arrête jamais, mais c'est le principe. C'est surtout au début. C'est-à-dire que c'est ça, hein, c'est véritablement un développement continuel, enfin continu, pardon, de la voiture et de l'équipe en même temps. Donc nous, on développe un peu les deux en même temps.
Et à Bahreïn, vous pourrez peut-être vous mesurer déjà en situation réelle avec la Porsche, la nouvelle 963. D'un point de vue de regard de technicien, comment est-ce que vous avez jugé les définitions techniques adoptées par Porsche et par Ferrari, qui sont radicalement différentes quand même, en tous les cas d'un point de vue visuel, par rapport à votre voiture?
Alors, d'abord, ils sont tous les deux dans deux règlements qui sont différents. C'est-à-dire que Ferrari est sur le même règlement que nous, hein, sur un règlement LMH Hypercar, donc le Mans Hypercar 4 motrices hybrides. Et par contre, Porsche est sur un règlement LMDH, donc qui est un règlement différent, avec beaucoup plus de contraintes. Ferrari, on connaît très peu leur voiture, finalement, on l'a vu tout comme vous, quelques images dans la presse. De l'extérieur, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Le commentaire, moi, je trouve plutôt sympathique. C'est encore un concept aéro qui est différent. Donc, c'est un troisième concept aéro d'hypercar encore différent. Ça, je pense que c'est plutôt très bien. Globalement, la diversité dans cette catégorie, c'est quand même quelque chose qui est fortement souhaitable, je pense, pour les fans, pour l'ensemble du public. Et puis, ça rafraîchit un petit peu la catégorie. Donc, nous, on avait essayé d'apporter un peu notre pierre. Et on est plutôt pour l'instant très content de voir qu'ils sont aussi sur un concept un peu novateur. Voilà.
On a vu aussi la Cadillac, on a vu des images. On ne l'a pas vu rouler, on a vu des photos. L'ingénieur que vous êtes regarde ces photos comme le quidam ou arrive à déceler quand même des principes pris par les différents constructeurs?
Bon, alors on voit pas vraiment comme le quidam, mais très, très franchement, c'est pas non plus au sein de nos préoccupations. C'est-à-dire que ce règlement, enfin, ces règlements par principe, vont générer des voitures de formes différentes. Bon, il y a des choix qui peuvent être faits. C'est souvent très compliqué de comprendre l'intégralité du concept technique à partir de photos de l'extérieur de la voiture. C'est effectivement, nous, on sait à peu près, nous, on connaît la cohérence sur notre voiture entre ce qu'on a fait extérieurement, ce que vous voyez, ce qui est visible, et puis ce qu'on a fait mécaniquement sur la voiture. Tout ça, c'est un concept qui a sa cohérence. J'imagine que c'est la même chose chez nos concurrents. Et pour arriver à comprendre réellement la cohérence de ce qu'ils font, c'est beaucoup plus compliqué et il faut beaucoup plus d'informations que de simples photos des voitures, du moins de la carrosserie des voitures.
On va vous poser juste une dernière question, Olivier Jansoni. Le programme, là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, avant la prochaine épreuve, donc à Fuji, ça sera le 11 septembre. Ça va être quoi? Éplucher les datas?
Ça va être dépouillé. Les datas sont déjà en bonne partie épluchées. On y était déjà hier soir.
Vous avez des petits yeux.
Ouais. on va passer. Non, bon, l'idée, c'est de passer en revue absolument tout ce qu'on a vu, d'essayer de rien rater. Il faut surtout qu'on ne manque pas des informations, en fait, qu'on arrive à absolument tout capturer. C'est assez incroyable le volume d'informations qui circulent pendant le week-end de course, qu'il faut absolument réussir à poser, parce qu'elles ont tendance à disparaître dès que le week-end de course est fini, où tout le monde oublie un petit peu les détails. Et ces détails sont très importants pour nous, donc on va analyser un petit peu tout ça. Et puis très rapidement, il faut qu'on arrive à voir comment on règle nos problèmes, et comment on progresse sur les points qu'on a notés, qui sont des points techniques, mais aussi des points opérationnels. Et le mettre en œuvre au plus tôt pour Fuji.
Où en êtes-vous finalement au niveau du tableau de marche que vous vous étiez défini? Et est-ce que l'objectif, c'est la victoire aux 24 Heures du Mans pour l'édition du centenaire en 2023?
Bien sûr, c'est l'objectif. On ne sera pas les seuls sur cet objectif-là, mais bien sûr, c'est l'objectif. Et en fait, le tableau de marche, un petit peu, il est calculé en fonction de ça. Notre idée, c'était que ça serait très compliqué de prétendre à la victoire au Mans 2023 en commençant deux courses avant. D'où l'intérêt pour nous de faire ces trois courses en fin 2022. C'était notre planning, on s'est tenu jusqu'à présent. Je pense qu'on est à peu près sur le planning. Aujourd'hui, on est rassuré sur la performance, ce qui est important parce que dans ces catégories à homologation, arriver avec une voiture qui est en dessous du niveau de performance, c'est très compliqué de revenir après derrière. Donc on s'est rassuré par rapport à ça, on est où on devrait être, je pense, en termes de performance. Et maintenant, on a besoin d'améliorer tout le reste, de façon à pouvoir faire des courses qui soient la plus entre guillemets tranquille possible. On puisse utiliser la voiture au maximum de sa performance pendant toute la course, qui clairement n'est pas notre cas aujourd'hui.
Merci beaucoup, Olivier Jansoni, d'avoir pris quelques minutes, je pense, dans cette période qui est vraiment ultra importante pour vous. Mais c'était vraiment important de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bon été quand même. Vous allez prendre des vacances ou pas chez Stellantis, chez Peugeot? Bon, ok. Merci beaucoup, Olivier. Et bonne suite de saison. On se retrouve à Fuji.
Au revoir.
Au revoir. Voilà donc pour ces fous du volant en post-Grand Prix d'Autriche et post-6 heures de Monza en compagnie d'Olivier Jansoni, un fou du volant de plus à inscrire à notre actif Stéphane. On va pouvoir faire relâche le week-end prochain, il n'y a pas de Grand Prix. On souffle.
Il y aura toujours un fou du volant.
Exactement.
Qui sera juste avant le Grand Prix de France. Donc on aura un invité prestigieux, Eric Boulier, le directeur général du Grand Prix de France, pour nous parler de cette magnifique épreuve qu'on va avoir la joie en fait d'accueillir au Castellet. Un très beau circuit, il y avait eu une course de dingue l'année dernière, un suspense de folie. Et il y a un très beau plateau aussi cette année, donc il nous en parlera en détail.
Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit, alors selon l'expression consacrée, on coupe le contact.